Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle d'un accord de commerce international au cœur de l'actualité pour deux raisons, le CETA. Tous les 5 ans, les questions de libre-échange et notamment ce traité controversé entre l'UE et le Canada reviennent sur le devant de la scène à la faveur de la campagne des élections européennes. Mais cette année, il y a du nouveau. Le Sénat français a largement voté contre la ratification de cet accord la semaine dernière, lui portant un coup qui pourrait être fatal. Alors, en quoi consiste exactement le CETA ? Pourquoi suscite-t-il des oppositions variées, des agriculteurs aux écologistes ? Et quelles seront les conséquences de son rejet par la Chambre haute du Parlement français ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Maxime Vaudano, chef du pôle enquête des décodeurs du Monde. CETA, tout comprendre à l'accord controversé rejeté par le Sénat, un épisode réalisé par Amandine Robillard. Nous sommes le mardi 23 juillet 2019 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'ambiance est électrique. Les députés doivent voter pour ou contre la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mathilde Panot, élue de la France insoumise, est l'une des dernières à prendre la parole avant le scrutin.
Combien de temps allez-vous continuer à vous voiler la face et à duper les Français ? La seule écologie possible est l'écologie qui reprend le contrôle de l'économie. Entre le CETA et Greta, il faut choisir. Alors, chers collègues, choisissez maintenant. Les générations futures vous regardent. Et si vous votez pour le CETA, l'histoire vous jugera.
Mais il n'y a pas qu'au sein des partis d'opposition que le CETA suscite des critiques. Quelques jours plus tôt, lors de l'examen du texte, plusieurs députés LREM issus de circonscriptions rurales ou en pointe sur l'écologie ont exprimé des doutes. Faire venir de la viande qui a fait des kilomètres, est-ce que c'est opportun alors que l'écologie va devenir une priorité ? A osé demander l'élu de la majorité Benoît Potry. Les députés votent, puis Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, annonce le dénouement.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 553, exprimés 479, majorité 240 pour, 266 contre 213. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. La séance est suspendue.
Le texte est certes adopté, mais révèle une fracture inédite au sein de la majorité. Depuis 2017, la règle est claire. Abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel. En clair, mieux vaut choisir de ne pas se prononcer quand on n'est pas d'accord. Lors de ce vote sur la ratification du CETA, 52 députés LREM se sont abstenus, mais surtout, 9 ont voté contre. À ce moment-là, le texte devient le plus mal voté du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Salut Maxime.
Salut Margot.
Alors on a de la chance de t'avoir au micro pour expliquer ce sujet épineux parce que tu t'intéresses au CETA depuis longtemps et tu as suivi son historique tumultueux de près. Je te propose justement de reprendre les choses dans l'ordre. De quand date ce traité et quand est-ce que toi tu as commencé à t'y intéresser ?
Alors c'est un traité qui a commencé à être négocié à la fin des années 2000 entre d'un côté la Commission européenne et de l'autre le gouvernement canadien. Donc c'est des fonctionnaires qui se mettent dans des salles de réunion pendant des années pour négocier. Et ils sont arrivés à un accord en 2014. Donc moi, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à m'y intéresser parce que c'est là où le grand public, où les partis politiques, les ONG ont commencé à porter ce sujet dans le débat public. Et ça a commencé à se politiser. C'est passé d'un sujet très technique auquel personne ne s'intéressait à un vrai sujet politique. Aussi, à l'époque, en 2014, il y avait un deuxième traité qui était en négociation, qui était le TAFTA. C'était un peu l'équivalent avec les États-Unis qui aujourd'hui a été enterré. Mais vraiment, ça fait 10 ans qu'on parle de ces sujets-là et il y a toujours les mêmes problématiques qui sont mises en avant.
Alors, on va entrer dans le détail de certaines mesures prévues par le CETA au fil de ce podcast. Mais est-ce que tu peux nous donner d'abord une définition un peu générale pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit ?
Un traité comme le CETA, c'est tout simplement un document d'à peu près 2000 pages. C'est assez aride, c'est un des textes très juridiques. Le but, en fait, c'est de mettre noir sur blanc des règles sur le commerce entre deux partenaires, donc là, entre l'Union européenne et le Canada. Le but principal de ces accords, c'est de favoriser le commerce, les échanges, le fait que des entreprises européennes puissent s'installer au Canada et exporter au Canada et vice-versa. Donc en fait, il y a plusieurs types de mesures dans ces accords. Le principal type de mesure qu'on retrouve, c'est le fait de baisser les droits de douane. Les droits de douane, c'est ces sortes de taxes que les exportateurs doivent payer quand ils rentrent sur un marché. Donc typiquement, je vous donne un exemple. Avant, les producteurs de chocolat européens, quand ils voulaient exporter du chocolat au Canada, ils devaient payer des droits de douane de 10%. Donc ça fait que pour 1000 euros de chocolat qu'ils exportaient, ils devaient payer 100 euros de droits de douane. Et là, avec le CETA, ils payent zéro. Après, il y a un deuxième type de mesure, c'est sur des barrières au commerce qui sont moins facilement palpables. C'est pas forcément des taxes, des droits de douane. Ça va être plutôt des divergences de réglementation ou de règles ou des obstacles, des choses qui, en fait, empêchaient ou rendaient plus difficile le commerce entre les deux blocs. Donc, quand les producteurs de vin européens, par exemple français, veulent envoyer du vin au Canada pour qu'il soit distribué et qu'il soit consommé par les Canadiens, il y avait pas mal de bâtons dans les roues qu'ils avaient pour être distribués sur le marché canadien. Parce qu'au Canada, il y a des sortes de magasins réglementés pour l'alcool, toutes les boissons alcoolisées, et où en fait on privilégiait les vins locaux canadiens. Grâce au CETA, le but c'est d'éliminer toutes ces barrières pour que tout le monde soit un peu logé à la même enseigne.
Ok, donc ce traité de libre-échange, il est signé en 2014, il a été ratifié par l'Assemblée nationale seulement en 2019, on l'a raconté, et il vient d'être rejeté par le Sénat en 2024, à nouveau 5 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement du CETA, Maxime? Pourquoi les différents votes sur ce texte ont été aussi espacés dans le temps?
Alors c'est un processus qui est très très long de ratifier des accords comme ça, parce qu'en fait il y a plein de parties prenantes différentes. Il y a, on l'a dit, la Commission européenne et le Canada, au début, qui se sont mis dans ces salles de réunion pour discuter, qui se sont mis d'accord il y a 10 ans. Mais après, côté européen, il fallait convaincre les chefs d'État, le Parlement européen et les parlements de tous les pays européens. Donc tu imagines que ça prend un petit peu de temps et tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Donc il y a eu une première phase où il y a eu pas mal de discussions, notamment avec la Wallonie, la région belge, qui était... pas d'accord pour signer l'accord. Donc ça a fait traîner pendant plus de 2 ans la signature du traité. Après, il y a eu pas mal de discussions. Le Parlement européen l'a accepté en 2017, etc. Et donc, à partir de 2017, quand le Parlement européen a donné son accord, le CETA a pu entrer en vigueur provisoirement. Donc ça veut dire que la plupart de ces mesures, en fait, sont entrées en vigueur, notamment ce dont on parlait sur les droits de douane, etc. Et donc, il reste une petite partie du traité, on va dire à peu près 5% du traité, qui ne s'applique pas parce que ça empiète sur les compétences des États. Et pour que ce volet soit appliqué et pour que le CETA soit définitivement en vigueur, il faut que les 27 parlements nationaux se prononcent dessus. Et c'est là où ça se complique, parce que dans les différents pays, il y a différentes sensibilités politiques. Il y a des pays qui l'ont approuvé très facilement et d'autres où ça s'est passé plus difficilement. Et en France, par exemple, on a commencé à le soumettre au Parlement en 2019 avec un vote à l'Assemblée nationale où ça a été adopté vraiment de justesse. Et depuis, du coup, on était en attente d'un vote au Sénat pour finaliser la procédure.
Et comment on explique qu'après ce vote de justesse à l'Assemblée nationale, dont on a déjà parlé tout à l'heure, le texte ait mis autant de temps à aller jusqu'au Sénat ?
Alors normalement, ça aurait dû enchaîner comme n'importe quel projet de loi. C'est voté à l'Assemblée, c'est envoyé au Sénat quelques mois après. C'est en fait la responsabilité du gouvernement de ne pas avoir transmis le texte au Sénat. Ils n'ont pas dit officiellement pourquoi ils ne le faisaient pas, mais tout le monde sait que c'est parce qu'en fait, ils avaient un petit peu peur du résultat du vote du Sénat, parce qu'ils savaient que ça risquait d'être rejeté. Donc, ils voulaient attendre le maximum de temps possible pour se retrouver dans une configuration où il y avait des chances que le texte passe. Notamment parce qu'il y avait des élections sénatoriales entre les deux, et aussi parce que leur pari, c'était de dire plus le temps passe, plus on va voir les effets positifs du CETA qui commencent à s'appliquer, et plus les gens seront disposés à voter pour.
Et comment ce texte s'est retrouvé devant le Sénat finalement alors ?
Eh ben du coup, c'est pas grâce au gouvernement, parce que le gouvernement était toujours dans une position de blocage par rapport à ça. Mais il y a eu un petit coup de Trafalgar au Sénat où en fait les communistes, le groupe communiste, a décidé d'utiliser une des 2 journées qu'ils ont chaque année pour décider de l'examen de certains textes, on appelle ça les niches parlementaires, pour forcer l'examen de ce projet de ratification du CETA. Et donc, ils l'ont inscrit, ils ont forcé le gouvernement, entre guillemets, à l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat. Et c'est pour ça qu'on a eu ce débat jeudi dernier et ce vote qui, finalement, a été un vote négatif à une grande majorité.
Maxime, on va revenir ensemble sur les conséquences de ce vote du Sénat et elles pourraient être assez lourdes. Mais d'abord, je voudrais qu'on essaye de distinguer le vrai du faux, des arguments des pros et des anti-CETA. Tu viens de nous dire qu'une grande partie des mesures de ce traité étaient déjà en vigueur depuis 2017. On commence donc à avoir un peu de recul. Première question, qu'est-ce que ça donne sur le plan économique pour l'instant? Est-ce que la France y gagne?
Pour l'instant, on n'a pas de vrai bilan complet du traité. Il devra être fait normalement l'an prochain. Donc en fait, tout le monde se bat avec des chiffres qui sont un petit peu parcellaires, etc. Ce qui est indéniable, c'est que le commerce entre l'Union européenne et le Canada a énormément augmenté depuis 7 ans. Il a augmenté entre un tiers et la moitié. En fait, quand on regarde un peu plus près les chiffres, c'est un peu plus nuancé le bilan. Parce que déjà, le commerce global de l'Union européenne avec tous les partenaires a augmenté dans la même période. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un différentiel avec le Canada? C'est pas évident. Et en parallèle, on a vécu une période où il y a beaucoup d'inflation. Donc, en fait, on exporte la même quantité de biens. S'ils coûtent plus cher, bah, dans les statistiques, ça gonfle. Alors que quand on regarde les volumes en kilos de marchandises échangées, c'est pas si énorme que ça. Après, il y a la question de est-ce que ça a créé des emplois, comme on l'a annoncé. La Commission européenne met en avant des chiffres comme quoi ça a soutenu au moins 120 000 emplois à l'échelle de l'Union européenne, ce traité. C'est un chiffre qui est assez douteux. Il a été pas mal examiné par différents experts des ONG. En fait, il est basé sur des données assez anciennes et assez hypothétiques. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour faire le bilan au niveau vraiment emploi, croissance, etc. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains secteurs en Europe qui en ont bénéficié. Les producteurs de vin, les producteurs de fromage, certaines grandes entreprises qui peuvent accéder à des marchés publics au Canada. Donc c'est sûr qu'il y a des gagnants. La question, c'est est-ce que le résultat global, il est plutôt favorable ou pas à l'Europe.
Et alors, parmi ces biens qu'on échange plus facilement avec le Canada aujourd'hui, il y a notamment de la viande. Les agriculteurs français, et particulièrement les éleveurs bovins, font partie des opposants de la première heure à ce CETA. Ils craignaient une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'on observe à ce stade? Est-ce que c'est le cas?
Dans le CETA, il y a une possibilité pour les Canadiens d'exporter beaucoup plus de bœuf en Europe qu'avant. En gros, on leur a donné un quota où ils peuvent exporter à peu près 65 000 tonnes de bœuf. Et ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, ils en ont exporté très peu. Donc, on peut se dire, les craintes n'ont pas du tout été vérifiées à ce stade. Pourquoi ils en ont exporté peu? C'est parce que pour l'instant, le marché européen n'est pas très intéressant pour eux par rapport à la Chine. Parce qu'il y a des normes en Europe qui sont plus contraignantes. Donc, ça leur demanderait beaucoup d'investissements pour travailler avec l'Europe. Donc, pour l'instant, le déferlement qu'on attendait n'a pas eu lieu. Pour l'instant, c'est plutôt les éleveurs européens qui augmentent leurs exportations vers le Canada. Après, tout ça, ça reste des quantités qui sont assez minimales par rapport à la production en entier au niveau européen ou par rapport aux exportations européennes vers l'extérieur.
Et Maxime, tu viens d'évoquer les normes sanitaires qui sont aussi un point d'achoppement depuis le début du débat sur le CETA. Qu'est-ce qu'on observe de ce point de vue-là depuis 2017?
C'est vrai que c'est un enjeu crucial, les normes, parce qu'en gros, les producteurs européens, ils sont soumis à tout un ensemble de normes. Ils n'ont pas le droit d'utiliser certains produits dans l'élevage de leurs bovins, etc. Alors qu'au Canada, les normes sont différentes. Et assez étrangement, ces normes ne sont pas forcément applicables quand on importe du bœuf, par exemple, du Canada. Il y a certaines choses qui sont clairement interdites et d'autres qui sont autorisées. Par exemple, les éleveurs canadiens, ils utilisent des antibiotiques comme stimulateurs de croissance pour leurs bêtes et ils ont le droit de les utiliser et ensuite de les exporter en Europe. Donc ça, c'est vraiment un point de crispation. Après, il y a certaines choses qui sont clairement interdites, par exemple les hormones de croissance, les OGM, etc. La question, c'est est-ce qu'on est en mesure de vérifier que c'est bien appliqué? Et là, il y a eu des audits récemment qui ont été faits par les Européens au Canada qui sont pas très rassurants parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à vérifier que toutes ces normes-là sont bien appliquées. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une inégalité de traitement où on impose des normes à nos agriculteurs européens que finalement, on n'exige pas du tout pour les éleveurs canadiens?
Ok, ça, c'est pour les questions économiques et de concurrence. Le deuxième gros volet, Maxime, c'est celui de l'impact climatique, qui est un argument phare des anti-CETA depuis le début. Est-ce qu'on a des données précises sur ce point aujourd'hui, concernant en tout cas les pans du traité qui sont déjà entrés en vigueur?
C'est vrai que c'était un gros point d'inquiétude et c'est une des choses qui fait qu'il y a beaucoup d'ONG écolo qui étaient contre le traité et qui le sont toujours. Et qui d'ailleurs ont créé un front assez inédit avec les agriculteurs. Souvent, on les voit opposés dans certaines thématiques. Et là, en fait, ils sont assez coordonnés et unis dans leur rejet du CETA. Pourquoi? Parce que ils se disent augmenter les échanges commerciaux entre le Canada et l'Union européenne, ça va mécaniquement faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre, puisque on va stimuler l'échange de pétrole, d'engrais, on va stimuler le transport maritime, etc. Donc, il y avait une étude qui avait été faite avant l'entrée en vigueur du CETA qui prévoyait que ça allait légèrement augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a pas mal de biens qui sont assez polluants, qui sont en augmentation dans les échanges. Donc, on peut faire l'hypothèse que ça va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce bilan vraiment très, très précis, il sera fait que l'année prochaine. Dans l'attente, on en est réduit à des hypothèses.
Alors Maxime, on en vient maintenant aux conséquences de ce vote du Sénat français contre le CETA. Tu nous as dit que la majorité des clauses du traité étaient déjà appliquées aujourd'hui, sauf certaines qui nécessitent cette fameuse ratification. Quelles sont ces mesures restantes, celles qui n'ont pas encore pu entrer en vigueur ?
La principale mesure qui reste, et qui est un gros point de fixation également, c'est les tribunaux d'arbitrage. Donc l'idée, c'est de mettre en place une sorte de justice à part pour les entreprises canadiennes qui sont installées ou qui travaillent avec l'Union européenne et vice-versa, pour les entreprises européennes qui vont au Canada. Donc l'idée, c'est que si, par exemple, il y a une entreprise canadienne qui produit des cigarettes, par exemple, qui est installée en France et que la France prend une décision pour la lutte anti-tabac de mettre en place un certain nombre de mesures, cette entreprise canadienne, elle peut se sentir lésée dans ses intérêts économiques et au lieu d'aller devant la justice française, comme elle devrait le faire normalement, elle va aller devant ce nouveau tribunal du CETA, donc pour demander des réparations par exemple. Et ce tribunal, il a pour particularité que ce n'est pas des vrais juges qui y siègent, ce n'est pas une juridiction normale, c'est plutôt des arbitres. Donc il y a tout un système d'arbitres, un petit peu comme on a connu dans les arbitrages de l'affaire Tapie, où il y a pas mal de suspicions sur le fait qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, que les décisions qui sont rendues ne sont pas vraiment conformes aux intérêts des États, ou qu'il y a vraiment une sorte de monde à part dans ces systèmes d'arbitrage. Et donc, la grande crainte, c'est que pas mal d'entreprises se saisissent de ces nouveaux tribunaux pour aller contester à droite à gauche les législations des États, et notamment les législations qui visent à protéger les consommateurs, à protéger l'environnement, et que finalement, elles demandent des milliards pour être compensées, et que du coup, ça fasse peur aux États, et que finalement, ça les décourage d'aller prendre des positions ambitieuses sur le climat ou sur la santé.
Et pour lutter contre ça, on a parfois entendu parler d'un veto climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors pour répondre aux craintes qui avaient été soulevées, il y a eu plusieurs petites réformes de ce système avant même qu'il entre en vigueur. Notamment, à l'initiative de la France, il y a eu une sorte de document qui a été rédigé pour préciser certaines choses et notamment pour mettre en place ce qu'ils appelaient un veto climatique. Le veto climatique, ça veut dire que, en gros, ce tribunal-là ne pourra jamais être utilisé pour contester une politique favorable au climat. Donc sur le principe, ça règle un petit peu le problème du point de vue de l'environnement en disant « bon, bah c'est bon, ça ne pourra pas être utilisé ». Le problème, c'est que le diable est dans les détails. Est-ce que ce document-là suffira à empêcher les litiges sur ce sujet-là ? Il y a pas mal d'experts, d'ONG qui jugent qu'en fait, non, il y a trop de failles dans ce texte-là. Donc, il y a un trop grand risque que ce tribunal soit utilisé à l'avenir pour contester une politique pro-climat ou pro-santé.
Et alors, Maxime, le vote du Sénat français, qui, on l'a dit, a massivement rejeté la ratification du CETA, à quel point il remet en cause la création de ces tribunaux d'arbitrage ?
Pour que les tribunaux d'arbitrage voient le jour, il faut que la ratification soit complète, donc que tous les parlements européens aient voté. Donc aujourd'hui, la ratification, elle est un peu en mauvaise posture en France. Donc maintenant, il faut qu'on attende un dernier vote qui aura lieu normalement fin mai à l'Assemblée nationale. Ça sera un peu le dernier mot de la France sur ce sujet-là. Si jamais l'Assemblée vote pour le CETA, le processus va continuer et si les autres pays sont d'accord, on va pouvoir appliquer définitivement l'accord, y compris dans le volet tribunaux d'arbitrage. En revanche, si l'Assemblée nationale vote contre, ça va être un échec pour la ratification au niveau français et potentiellement, ça va faire un effet en cascade où en fait, tout le CETA va être remis en question et on va non seulement pas l'appliquer en entier, mais on va revenir en arrière et on va carrément annuler tout ce qu'on a appliqué depuis 2017.
En remettant les droits de douane qui ont été supprimés, par exemple.
Tout à fait, oui. On annule l'application provisoire et on enterre définitivement le traité.
Et ça, c'est un scénario vraiment probable ou c'est un peu théorique, ce retour en arrière ?
Au niveau des équilibres politiques à l'Assemblée nationale, c'est vraiment possible que les députés votent contre. Après, de là à arriver jusqu'à la mort définitive du CETA, il peut y avoir plusieurs étapes. Parce que ça, c'est la théorie, mais ça va être très difficile à assumer politiquement pour la France d'aller dire bah, « nous, on a échoué à ratifier, du coup, il faut tout annuler ». Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait plusieurs innovations institutionnelles ou des petits coups politiques qui soient faits pour éviter d'en arriver jusqu'à l'enterrement du CETA et pour éviter que la France assume la responsabilité de cet échec, que le traité soit retiré près de 20 ans après le début des négociations.
Merci Maxime.
Merci.
Pour suivre la suite du parcours du CETA, rendez-vous sur lemonde.fr. Et pour soutenir le travail de notre rédaction, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité. Merci de votre fidélité et à demain.